s'élève. La victoire est imminente. Cette nuit, la terre sera souillée par le sang du Rohan. En avant, au gouffre de haine. Pas de quartier.
Bonsoir, bienvenue à tous pour cette deuxième émission de la Fan Club 2.0, enfin la numéro 1 en vrai, puisque la semaine dernière on a fait un petit test et vous avez pu vous en rendre compte, c'était un peu pourri au niveau des mics. Là cette fois, Guillaume a été fouillé dans la cave d'un obscur métalleux arménien et il a ramené du matos, donc ça devrait aller. Ce soir, pour mener à bien cette mission dans le Slave One, Johan. Bonsoir Johan.
Bonsoir.
Que fais-tu là ?
Ouais, mais là, je suis en train de couper une brioche des rois.
Et c'est ça que c'est bon.
Et je suis en survêtement, parce que le dimanche, je suis en survêtement, et comme il pleuvait, et ben, Catan est en train de mener grâce à la pluie.
Le charcutier. Moi, je mange du popcorn, comme d'habitude. Et tout va très bien. Moi, je veux juste être rentré pour Matrix Reloaded ce soir, voilà, parce que même si ce film n'est pas très bon, c'est quand même un Matrix.
Matrix Remoulade.
Tout à fait.
La légende.
Et enfin, Sony, qui est là.
Il n'est pas très bon, mais il n'est pas très mauvais. Bah, moi, je mange de la brioche en même temps que je parle. Voilà.
Bah, voilà, c'est de la brioche, la Fan Club, on vous l'avait dit. C'est plus de beurre et plus doré à l'extérieur. Donc, ce soir, ce qui nous réunit, ça va être le parrain de la Fan Club, à savoir Quentin Tarantino.
John McTiernan.
Ça commence à raconter de la merde.
Ah bah, moi, personnellement, je fais une émission sur John McTiernan. Vous parlez de ce que vous voulez, mais moi, toutes mes réponses sont... sur John McTiernan. Par exemple, si tu me demandes ce que je pense de Pulp Fiction, eh ben, je pense que Die Hard, c'est vraiment bien.
Ok, d'accord. Donc, on va essayer de faire ça bien quand même, hein, les gars. Donc, première partie ce soir. On va aller peut-être que jusqu'à... je sais pas, on verra.
Ouais, non, jusqu'à Kill Bill, tu vois. Oh, on peut, je disais à Johan, on peut scinder au milieu de Kill Bill, comme ça.
Ouais.
La bouclée.
Pas une mauvaise idée.
Oh, donc, il a la fève. Il a la fève, Johan.
Bah, j'ai pas réellement la fève parce qu'en fait, elle est tombée de la brioche.
C'est un peu l'arnaque, ça.
Il y aura pas droit, merde.
Bon, Quentin Tarantino, fais-nous un petit Wikipédia, Christophe Bach.
De tête, un Wikipédia de tête. Alors, Quentin Tarantino est né, hein, il est né à Knoxville, Tennessee, en 1963, de mère infirmière, de père musicien. L'enfance, l'enfance, quoi, passait pas mal. Jusqu'à 15-16 ans, il a fait des petits. Non, je crois qu'il a fait un My Best Friend Birthday, c'est quoi ? C'est quand il était jeune aussi, c'est ça, non ? Ou c'est plus tard ?
C'est un peu plus tard, c'est son premier. Ça devait être un long métrage.
Je sais qu'il a jamais fait d'école de ciné, c'est plus ou moins un autodidacte, mais il a toujours dit que les cours de théâtre qu'il avait fait l'avaient pas mal aidé. Talent inné pour la narration.
Ça ne se voit pas que ça l'a aidé, les talents de ses cours de théâtre.
Son prof n'était autre que l'illustre Roscoe Pecoltran, quand même, de théâtre, ouais, de comédie. Mais non, il faut dire que c'était un gamin, tout de suite, il a été fasciné par la télé, les programmes télé, la culture populaire, la musique, les BD, les pulps, tout ça. Ouais, c'est pas né, c'est pas venu du jour au lendemain.
Il vient du terroir américain, quoi.
Déjà du Tennessee, donc c'est important. Et puis surtout, il a sa mère, famille divorcée, donc sa mère, il reste avec sa mère. Et il a gardé le nom de son père, parce que sa mère a un nom grec, je crois, quelque chose comme ça.
Elle a bien raison, parce qu'il est quand même d'origine italienne, ce génie.
Et il a passé son enfance à regarder des films, aller au drive-in, au ciné, les programmes Grindhouse, tout ça. Donc lui, le terroir américain populaire, il connaît et la vie sociale et la culture, quoi.
Voilà. Ouais, il faudra qu'on retrouve, mais il a souvent dit, il y a eu un... Je sais pas s'il n'y a pas eu un documentaire sur cette chaîne, justement. Câblée américaine où il a fait tout son apprentissage cinéphilique, il l'a fait sur cette chaîne là qui serait l'équivalent aujourd'hui d'un TCM ou d'un Canal Plus encore chez nous dans les années 80
ou de cinéma.
Bah, le mec, de toute façon...
C'est le cinéma qui tu peux voir des tonnes de films, quoi.
Oui.
D'ailleurs, TCM fait partie de Ciné-Cinéma, non ?
TCM, non, c'est une chaîne indépendante, mais elle est sur le bouquet.
Il a été abreuvé quand il était gamin, de toute façon, de cinéma asiatique. De toute façon, tu sens toutes les influences dans son truc. Et d'entre autres, quand il a cherché du boulot, quand il a eu, je sais pas, 19, on va dire 19-20 ans, un truc comme ça, peut-être avant. Enfin bon, il a bossé dans une grande chaîne de vidéoclubs aux États-Unis.
C'est pas une grande chaîne en fait.
Hein, c'est pas une grande chaîne ?
Ah non, c'était
Alors, il a bossé dans une petite chaîne de vidéoclubs aux États-Unis.
Un vidéoclub indépendant, un petit vidéoclub.
Tout à fait, c'est ce que je disais.
De Los Angeles.
Et le mec,
Avant de parler de ça, on va en parler plus longuement. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo de où en était l'industrie du cinéma à cette époque-là, quoi ? Le vieil Hollywood, le nouvel Hollywood.
Là, on sortait des années 80. Là, quand Tarantino il arrive au même moment que, par exemple, Soderbergh. C'est la revanche du cinéma, de ce qu'on dit, le cinéma indépendant. Avec Soderbergh, tout ça, et l'émergence de Sundance où ces mecs se font connaître, en tout cas pour Soderbergh, pas pour Tarantino.
Le début des années 90, à moindre mesure, c'est un peu le retour au début des années 70, quoi. Mais là, cette fois-ci, les studios et les indépendants commencent à cohabiter, alors que dans les années 70, c'était au sein des gros studios quand même qui étaient faits les films dits indépendants avec un vrai ton, mais ça restait des films de studio, quoi. Tous les films qu'on adore des 70s, c'est tous Warner, Fox, machin, il n'y a pas de structure. La seule structure qui aurait pu être une vraie structure indépendante dans le temps, c'était United Artists, mais ça ne l'a jamais été, ça a toujours été fait comme un gros studio, donc comme Hollywood, de toute façon.
C'est ce qui est
ça.
Intéressant, c'est les années 90 seraient donc la fusion entre les années 70 et les années 80.
Ouais.
Avec les années 70, les auteurs au pouvoir avec le nouvel Hollywood, les années 80, les producteurs complètement plein de cocaïne qui arrive et qui disent bah non, tout ça c'est à nous. L'âge d'or. Et les années 90, où là il y a une fusion et où quand un jour on fera le top 20 ou le top 25 ou je ne sais quel top des années 90, on s'apercevra que c'est une décennie super difficile à classer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chefs-d'œuvre.
Ouais, et puis c'est surtout un moment où. Ils vont tous essayer de s'exprimer de manière la plus libre possible, ce qui n'était pas très possible dans les années 80, et ce qui était très différent dans les années 70. Quoi. Tout le contexte politique était différent, tout ça. Puis bon, dans les années 90, il faut voir que c'est la fin de la droite au pouvoir aux États-Unis, et c'est le début de l'ère de...
La fin de la guerre froide.
La fin de la guerre froide et le début du règne de Clinton. Et donc c'est l'inverse complet de, du règne, de, je dis règne, hein, mais de la présidence de Reagan et de Bush, senior, qui sera arrivé après. Quoi.
La chute du mur de Berlin, c'est coincé, les années 90, c'est entre la chute du mur de Berlin et le 11 septembre 2001, qui donne donc, après encore d'autres films.
Et Tarantino, c'est un peu le vent nouveau, mais il y a un truc important, c'est quand il est... Parce qu'il a bourlingué avant pas mal, avant d'arriver à Los Angeles avec sa mère. Et... Il s'installe dans un quartier où il y a beaucoup de blacks. Je crois qu'il en parle. Il dit ouais, voilà, moi j'ai. C'est pour ça aussi qu'il a cet amour de la culture black en général et que c'est très. À part Spike Lee qui de toute façon ne perd jamais une occasion d'offrir sa gueule là-dessus, c'est très rare les gens qui critiquent le fait que dans ses films il y ait beaucoup de gros mots à l'égard justement des blacks où le mot nègre est prononcé un nombre incalculable de fois. Voilà, et c'est un des seuls blancs qui se permettent de faire ça dans ses films. Et évidemment, Spike Lee à l'époque avait dit Tarantino avec ses mots nègres et tout ça.
En jaloux.
Parce que c'était les chasses gardées un peu.
En jaloux qu'il est.
Non, et puis parce qu'il trouvait que c'était mal placé qu'un blanc se permette de s'approprier d'une certaine manière le langage black dans les films. Voilà.
Ouais. Je rappelle que
Spike pas lui, je veux dire.
C'est,
ouais.
C'est le mec qui a critiqué Michael Mann quand il a fait Ali.
Ouais.
Voilà.
Non, notamment, mais bon, bref.
Notamment la scène où. Où Malcolm X se fait tuer, évidemment, il aurait aimé la tourner comme ça, cette scène, mais voilà, tout son film de 3 heures ne vaut pas cette scène.
Ne vaut pas ces 5 minutes. Et en fait, il essaye. Il, quand il arrive à Los Angeles, il adore le cinéma, il aimerait percer, tout ça. Cours de comédie, il bosse dans un vidéoclub pour PC Facture. La légende veut que souvent, devant des désaccords, ça finit sur le trottoir avec des clients quand ils sont pas d'accord sur des films, ils se battent, que c'est un sanguin, tout ça. Et le miracle intervient parce que.
Un peu de, donc, du vidéoclub en question qui s'appelle Video Archive, Archive en français, qui se trouve sur la côte californienne au sud de Los Angeles, c'est ça, Johan ? Au sud de Los Angeles, dans un quartier qui s'appelle. Putain, comment il s'appelle c'est le quartier, je ne m'en rappelle plus. On l'a cherché pourtant.
Non,
on l'a cherché un moment cet été.
Oh, ça va revenir.
Ça va revenir. Donc il y a un quartier qui est là-bas à Los Angeles, qui est un quartier résidentiel en fait. C'est pas un gros quartier de Los Angeles où il se passe plein de choses. Petit quartier, petit vidéoclub. Là, la légende veut qu'effectivement, il ait regardé tous les films du vidéoclub déjà. Donc, quand déjà tu regardes tous les films d'un vidéoclub, bah, tu commences déjà à prendre une petite culture, quoi. Si en plus, effectivement, il était branché 24h sur 24 sur le câble et compagnie.
Petite parenthèse, petit aparté, parce que j'ai vérifié tout à l'heure. Ce qu'ils mettent sur Wikipédia, est-ce vrai ou pas? Mais les deux premiers films qu'il ait vus, ça serait Délivrance et La Horde Sauvage, quoi. Donc le pélo. Je sais pas à quel âge il les a vus, mais Délivrance, surtout quand t'es gamin, c'est un film qui marque quand même.
Ah bah ouais, c'est sûr.
Donc.
Je pense qu'il a vu d'autres films avant. Mais...
Ah, je pense que c'est les deux films.
Il a pas attendu vraiment au vidéoclub.
Ouais, peut-être au ciné, tu vois. Peut-être
les
au
autres,
ciné.
Il les avait regardés, ceux-là, il les a réellement vus. Et donc, bah forcément, il est dans son vidéoclub toute la journée. Effectivement, il s'embrouille avec.
Anaheim, non,
c'est pas ça. Ouais, non, mais c'est pas ça.
C'est peut-être pour ça que vous l'avez pas trouvé, ouais. Parce que vous cherchiez pas dans le bon quartier.
Et donc, toute la journée, il écrit des scénars, il regarde les films, il essaie de refaire des scènes, machin et tout. Faut savoir qu'aussi, là, on est en quelle année là? On est dans les années 80, on est encore dans les années 80, fin des années 80, quoi. Il y a le cinéma asiatique qui arrive en force aux États-Unis. Le Wu-Tang Clan, il a fait ramener pas mal de films de kung-fu, Johan, non ?
Oui, ils ont ramené un petit peu cette imagerie, mais c'était vraiment au début des années 90. Hein, le Wu-Tang, ouais, c'était 91, 92. Ouais, ils ont participé de cette imagerie.
On sait qu'aux États-Unis et surtout sur la côte ouest californienne, il y a des vidéoclubs de prestige qui faisaient déjà de l'import, des magasins qui amenaient de l'import, que ce soit du film japonais, du film chinois, du film thaïlandais. Et tous les matins, tous les samedis matins, ça on le sait, il y avait des films de Godzilla qui passaient à la télé aux États-Unis dans les années 80-90. Et donc voilà, lui, Tarantino, en plus de se nourrir de la culture de cinématographique américaine, il a pioché pas mal de choses, parce qu'il a vraiment kiffé ça dans la culture asiatique et japonaise et des films de Hong Kong, Dans la nouvelle vague française aussi, on sait que c'est un...
Ouais, enfin, Godard et Melville, ouais, surtout Godard et Melville. Et d'ailleurs, ça, le, ce qu'ils fondent, enfin, la boîte de prod qu'ils fondent, Bande à part, c'est justement tiré de, du film éponyme, tu vois. Du, et ouais, grand fan de cinéma français de l'époque, de Blaxploitation, de Chambara, de tout. Ce mec, en fait, c'est un peu le cinéphile complet, parfait, quoi. Après,
bah, disons que ce passage dans ce vidéoclub-là, non seulement ça va lui amener une culture particulière et hétéroclite parce qu'il a cette ouverture d'esprit en termes de cinéma, mais ça va en plus, on s'en le verra bien plus tard, mais je pense que ça va vraiment stigmatiser sa manière de créer des films, sa manière de créer des scénarios, et au-delà de ça, sa manière de digérer les influences et de les rebalancer à l'écran avec, avec un talent que peu ont réussi à avoir. Quand il s'agit de faire des hommages et des références.
On n'en a pas parlé aussi, mais dans son vidéoclub, c'est là où il rencontre son pote Roger Avary.
Bien sûr.
Qui, avec qui il va justement, le soir où ils vont parler cinéma, et ils vont se dire, bah, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des scénars? Et c'est là qu'au final vont naître les premiers scénars de ces grands films, on va dire, jusqu'à Jackie Brown, avant Jackie Brown, en gros tout ce qui est son Reservoir Dog, son Tueur Né, son Pulp Fiction qui naît aussi là. Donc ouais, ils refont un petit peu le monde tous les deux. Roger Avary va lui faire son petit tour de chemin de son côté par la suite. Je sais pas si s'il reste encore ami, mais en tout cas c'est là que.
C'est possible puisque il a travaillé Tarantino sur les films de Roger Avary.
Ouais, c'est jusqu'à quoi? Enfin, Roger Avary, c'est quoi? C'est Killing Zoe. Il a fait quoi encore en tant que réalisateur, je parle.
Il a fait les lois de l'attraction surtout.
Ouais, c'est ça exactement.
On reviendra sur leur collaboration, notamment sur True Romance. Très important.
Donc à l'époque, qui était parce que pour bien situer le personnage, hein, on sait que. La gouaille du bonhomme, donc lui il vaut mieux parler à Dieu qu'à ses seins, et lui je pense que c'est un truc qu'il a mis en application assez rapidement. Donc qui étaient à cette époque-là vraiment les réalisateurs qui tenaient la route, réalisateurs encore auteurs, tu vois. Donc on a passé les années 80, le début de l'entertainment, le début des blockbusters, tout ça. Là on est fin des années 80, début des années 90 par là. Voilà, qui c'est qui tient la route, qui c'est qui tient le pavé à l'époque aux États-Unis, quoi.
Bah ouais, c'est le début des années 90, c'est ouais, comme dit Christophe, c'est Scorsese beaucoup parce que il vient de faire Les Affranchis, et ça le place après une succession de films, Taxi Driver, Raging Bull, La Valse des Pantins, After Hours et La Dernière Tentation du Christ. Donc Scorsese là, c'est devenu une espèce de gros symbole. Il y a toujours les monstres sacrés qui sont là. Coppola est un peu en perte de vitesse, Le Parrain 3, polémique, tout ça, bon film, pas bon film. Enfin, peu importe quoi.
Who's a regular fuck machine. I'm talking morning, day, night, afternoon. Dick, 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 dick.
How many dicks is that?
A lot. So one day, she meets this John Holmes motherfucker, and it's like, whoa, baby. I mean, this cat is like Charles Bronson in The Great Escape. He's digging tunnels. All right, now she's getting a serious dick action, and she's feeling something she ain't felt since forever. Pain. Pain.
Chew, Toby, chew.
It hurts. It hurts her. It shouldn't hurt. You know, her pussy should be bubble young by now. But when this cat fucks her, it hurts. It hurts just like it did the first time. You see, the pain is reminding a fuck machine what it was once like to be a virgin. Hence, like a virgin.
Ouais, donc début des années 90, à part Scorsese, c'est aussi Oliver Stone, avec tous ses Oscars, Platoon, Né un 4 juillet. Mais malgré tout, il y a quand même une... aussi grâce à Oliver Stone, mais il y a de la place pour une nouvelle ère. Par exemple, Soderbergh, dont Johan parlait, qui a eu la Palme d'Or pour Sexe, Mensonge et Vidéo en 89. Ce sera le plus jeune palmé de l'histoire de Cannes. Donc derrière lui, bon, bah, y a tout un tas de producteurs qui sont prêts à investir sur des jeunes talents. Tarantino habite quand même à Los Angeles, ça permet de griller certaines étapes. Et les rencontres, la fameuse rencontre qui bouleverse sa vie professionnelle, ce sera Lawrence Bender, qui est toujours son producteur et qui lui aura permis de rencontrer Harvey Keitel à un barbecue, je crois, un truc comme ça, voilà.
Weinstein ?
Non. Chez des amis communs, tout ça. Et du coup, les... plus ou moins un deal est trouvé pour que Tarantino, qui doit faire ses preuves, parce qu'il là, il commence à bosser sur des scénarios, dont True Romance, qui commence à intéresser des gens, il faut qu'il fasse ses preuves avec un petit film, petit budget.
Bon, 87, hein, on rappelle pour les auditeurs, il tourne son premier, ce qui aurait dû être son premier long métrage, mais amateur.
Ouais, mais ce qui ne se finira jamais.
Toutes les semaines, et voilà, qui s'appelle My Best Friend's
Birthday. Sur une histoire avec une call girl, tout ça, dont il a certainement dû piquer des éléments pour True Romance d'ailleurs.
Voilà, et dans lequel les 2-3 extraits qu'on a pu voir dans les divers bonus, il y a déjà des meufs, des blacks, des gangsters, des flingues et du kung-fu, quoi.
Le film a été détruit en partie et du coup tu pourras jamais le voir parce que je crois que tu as juste le début qui est disponible et tu as la moitié qui a brûlé en fait. Donc My Best Friend's Birthday, c'est effectivement comme disait Guillaume, il s'est servi de pas mal d'idées qu'il avait dans ce film pour d'autres scénars qu'il a fait par la suite.
Et donc 87, ça c'était My Best Friend's Birthday. Donc on passe à 92 pour Reservoir Dogs. Donc vraiment tout le début des années 90.
Alors Reservoir Dogs, tu parles du scénar parce que il fait d'abord il y a d'abord Tourné, non, qui
non,
c'est Aon, ce jeu. Alors voilà. OK, très bien. Donc
c'est,
vas-y.
C'est son premier film quoi, c'est avec ce film qui va se faire connaître, marché du film à Cannes, ça va être la révolution.
Attends, deux mots sur
fait avec un très très petit budget. Au final, à la base, il voulait le tourner juste avec des amis, tu vois. Et il se trouve qu'il rencontre, c'est un producteur, c'est ça, qui lui présente juste Harvey Keitel, notamment le barbecue, mais il lui présente aussi tous les autres acteurs qu'il va y avoir dans le film. Pour info, Harvey Keitel, je crois qu'il travaille gracieusement pour Reservoir Dogs.
Il produit le film. Il coproduit le film.
Mais je crois qu'il prend pas un copec dessus, hein. Je suis pas certain, mais enfin bon, peu importe.
Tarantino lui a dit j'ai tant d'argent pour faire un film. Et Harvey Keitel lui a dit écoute, j'ai 2 jours de libre là. Faut que ça se fasse là.
Donc huis clos, tu retrouves déjà tout le cinéma de Tarantino, c'est-à-dire le découpage, l'ultra-violence, et comme disait ensuite Guillaume, succès critique, mais au final, il passe assez inaperçu dans le paysage cinématographique international.
T'es fou. Il retourne le marché du film Reservoir Dogs. C'est grâce à Cannes encore. Bah, de toute façon,
non, mais,
Cannes et Tarantino.
Je crois qu'il marche pas. C'est
pas des films qui ont besoin de marcher pour lancer une carrière.
Non, mais ce que je veux dire, commercialement.
Au CNP, dans les cinémas. Ouais.
C'était un vrai film indépendant.
Moi, il m'a semblé que commercialement, ce film n'avait pas forcément super bien
c'était
marché.
C'était distribué par Back Film en France, souvenez-vous. Exactement. Et la cassette, c'était Delta Vidéo.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce film, déjà, remake de The Big Hit.
De quoi, Reservoir Dogs?
Ouais.
Non, c'est un remake de rien du tout. C'est un remake de.
Arrête.
Non, c'est pas The Big Hit le film auquel tu penses. C'est le film City on Fire de Ringo Lam.
Ouais, c'est pas The Big Hit?
Non.
City on Fire.
The Big Hit avec Mark Wahlberg.
C'est pas. Il prend des éléments aussi au Pirates du Métro. Parce que les personnages s'appellent par des noms de couleurs pour pas qu'on connaisse leur vrai nom. Mais sinon, c'est un film pas original dans son sujet. Après, c'est le traitement et les dialogues, beaucoup. C'est ça que les gens vont aussi percuter à l'époque. C'est qu'il y a du gros mot, de la punchline à gogo. Et ça, c'est un truc qui va récupérer des années 80. C'est le principal héritage de Tarantino, de ce qu'il prend des années 80, c'est l'art de la punchline, de placer au bon moment... les bons mots dans la bouche des personnages qui vont et iconiser le personnage et faire avancer l'intrigue, et en plus en dialoguiste il va commencer à faire comprendre que c'est un mec sur qui il faut compter avec un vrai univers. C'est pas pour rien qu'après il enchaînera les travails de script, qu'on va lui demander d'écrire des scénarios pour les vendre, et c'est comme ça qu'il va se faire sa maille au début.
Et la cerise un peu sur le gâteau, c'est qu'il commence à jouer aussi des petits rôles dans ses propres films. Alors après, pourquoi est-ce que quelqu'un a une idée, c'est quoi, c'est un peu son côté grosse tête, il veut jouer, il veut apparaître dans la plupart de ses films? C'est vrai qu'il est comme souvent présent à l'écran, quoi.
Un certain ego.
Ouais, il a un peu la melon.
Il se fait des petits rôles, il arrive à ne pas pourrir ses films par ses apparitions, ce qui est déjà... pas mal.
Ouais, sauf déjà dans son plus gros rôle, ce serait peut-être Une nuit en enfer, où il joue le frère Gecko. Et là, tu le vois, enfin, juste, c'est pas une apparition, là, c'est vraiment un rôle assez important, quoi. Donc, parce qu'il joue. Ouais.
Une bonne patate dans sa caravane, parce qu'il saoule son frère.
Exactement. Quoi d'autre? On était sur quoi? Sur Pulp Fiction?
Non, on est sur Reservoir Dogs.
Ouais, Reservoir Dogs.
Tu vas trop vite, Christophe.
Tu grilles des étapes importantes. Non, mais après, ce qu'il faut avoir T'arrêtes là ?
Non.
Ce qu'il faut voir avec. Ouais, vous avez vu là, les auditeurs, ils vont voir que là, c'est pas les conditions du. Les conditions maximum qu'on avait dans le faucon là. Hein. Le Slave One, c'est un peu plus.
Pourquoi ?
Bah non, parce que t'arrêtes, machin, on sait pas trop. Il y a un petit côté. Non, mais c'est bien, c'est bien.
Côté mystère.
va réparer l'hyperpropulsion, Jas, parce que là, ça va pas du tout.
J'y vais là.
Et non, puis Reservoir Dogs, c'est son ticket d'entrée à Hollywood, tout simplement. C'est le film qui va faire en sorte qu'il y aura un avant et un après Tarantino dans le Hollywood des années 90, quoi. Alors même s'il reste un cinéaste indépendant avec machin, qui va le récupérer, hein ?
Weinstein.
Voilà, c'est Miramax qui va mettre le grappin sur Tarantino pour plus le lâcher, parce que tous ces films en tant que réalisateur seront tous produits par ceux qui aimeraient justement représenter une alternative. Au cinéma hollywoodien, et je pense qu'en face des années 90, on peut mettre le nom d'Evenstein aussi pour le cinéma.
Ouais.
Avec, ils mettront en branle plein de machines à Oscar, ils vont essayer de s'imposer. C'est un peu, je trouve, c'est un peu la Carole Co du film d'auteur, quoi, ou fin, du film Intello, tu vois, avec les deux Mavericks qui viennent un peu se mêler au jeu et ils veulent se faire une place au soleil, quoi. Bah, ça aurait plutôt marché pour eux.
Mais parallèlement à Reservoir Dogs, il faut quand même parler de Romance. Parce que le scénario s'écrit quand même, de trois romans, s'écrit avant que Reservoir Dogs ne sorte. S'il faut se souvenir que à ce moment-là, qui est-ce qui produit trois romans déjà ?
C'est
Samuel Adida. Donc il lui demande d'écrire ça. C'est Tony Scott qui lit le script et qui est vraiment amoureux du truc.
Emballé à fond.
Super emballé, sauf qu'à la fin, si mes souvenirs sont bons, Slater meurt dans le script original de Tarantino.
Ouais.
Et Scott, ça le dérange, il ne veut pas qu'il meure. Et à ce moment-là, il y a Sammy qui rappelle Tarantino, qui dit « ouais, il faut retravailler dessus ». Il y a Scott qui veut pas qu'il meure, machin et tout. Et lui, il lui dit « ben, moi, j'aimerais beaucoup, sauf que là, je suis en pleine promo de Reservoir Dogs, c'est le moment où ça explose à Cannes ». Et il lui dit c'est pas possible, par contre ce que je peux faire c'est mettre mon pote Roger Avary sur le coup qui va lui réécrire la fin. Il lui dit je me porte garant de Avary, et c'est Avary qui va écrire la fin de Trois Romances. Donc à ce moment là voilà,
donc la fin c'est juste la partie où il se fait flinguer quand même.
Voilà.
Mais à la fin il y a une sorte de scène qui pourrait très bien ne pas être dans le film en plus, donc ça conserve quand même la fin voulue par Tarantino où il est borgne, du coup tu sais que voilà, ouais. La balle lui a traversé l'œil.
C'est pas ça ne remettra pas en question son implication dans le scénario. D'ailleurs il a jamais renié ce scénario là alors qu'on va le voir plus tard, tu en es, il le dit, c'est pas mon film.
Juste on l'a pas souligné, mais pour rester sur Reservoir Dogs, personne n'a parlé de ça, mais la scène de torture originale que Michael Madsen qui a révélé Michael Madsen, tout simplement, cette scène de torture hallucinante, on en parlait l'autre jour, qui à l'époque quand elle est sortie avait fait un scandale monstre
parce qu'elle est cool.
Bah, parce qu'elle est cool, parce qu'elle est second degré et qu'elle est quand même vachement violente pour l'époque.
Oui et puis parce qu'il va montrer une violence décomplexée, ce qui mais décomplexée réaliste, c'est pas l'arme fatale ou
gratuite,
en plus, et gratos, mais c'est pas là, on n'est pas dans l'arme fatale ou les mecs se prennent 15 balles et ça gicle de partout. Ou alors dans du Brain Dead où c'est du gore, mais pour du cinéma fantastique.
Mais bah
c'est
de la cool.
La violence. Ouais, c'est ce que je disais. C'est parce qu'on va lui prendre la tête. Parce que justement, sa patte, c'est mot qu'on galvaude un peu ici, mais bon, pop culture. Et il veut surtout jamais se départir de ce point de vue-là. Quoi. C'est, pour lui, ça doit être cool, ça doit être fun. D'ailleurs, tous ses personnages principaux, la plupart du temps, sont fans d'Elvis. Ou parlent d'Elvis à un moment donné. Ou s'ils en parlent pas, il y a un truc qui rappelle qu'ils doivent être cool comme Elvis, parce que Tarantino s'en est jamais caché, il est fan hardcore du King, bien lui en face, c'est très bien. Et Michael Madsen, il a un espèce de côté.
Son principal défaut, malheureusement.
Non, t'es dingue.
Bah, en tant qu'acteur, donc voilà.
Michael Madsen fait penser. Enfin, il a un truc d'Elvis, justement, à ce moment-là.
En 88, il avait joué dans une série de télé qui s'appelait Les Craquantes, alors je sais pas de quoi on tourne. Mais donc, il a joué Elvis Presley. Et il y a un autre acteur qu'on adore à la fan club,
Kurt Russell,
qui lui aussi avait commencé avec Big John,
avec Carpenter,
en jouant Elvis.
Dans le roman d'Elvis.
Le DVD sort en février, hein, pour ce truc que personnellement je n'ai jamais vu.
Bah, c'est un téléfilm.
Double DVD avec version longue avec une heure de plus.
Moi je l'ai vu, mais j'ai pas vu la version longue. Je l'ai vu, voilà, c'était cool. Donc Les Craquants que je n'ai jamais vu, Tarantino en Elvis. Il faut savoir que la petite, petite histoire dit qu'il avait fait un concours d'Elvis et qu'il avait gagné le concours d'Elvis. Donc il dansait super bien à la Elvis, il se trémoussait, il avait la coupe. Il faut l'imaginer à 20 ans, tu vois, 22 ans. Fin, pas comme un peu plus tard, pas comme bah, on sait tous. Non, c'est... Les années venant, le poids arrive aussi.
Et les survêtements jaunes aussi.
Les survêtements jaunes. Et donc voilà, comme le disait tout à l'heure Christophe, il aime bien se mettre en scène, donc il s'est mis en scène 2-3 fois. Et je pense que ce petit rôle d'Elvis, ça l'a bien marqué.
Ah ouais.
En 92, donc quelques années après, il jouera le père de Elvis dans un autre truc.
Bah mais voilà, de toute façon, il a souvent dans ses personnages, il y a quelque chose du King et il vient du Tennessee. Je veux dire, voilà, c'est quand même super important. Et dans la culture populaire américaine, Elvis, ça n'a aucun égal. Voilà, c'est juste. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois il y a quelque chose quoi. La première réplique de True Romance, c'est je suis pas du genre PD, mais si je devais me taper un mec, ce serait Elvis. Voilà, c'est la première phrase qui sort de la bouche de Christian Slater, quoi. Enfin, une des premières phrases. Donc voilà, tu vois, il y a toujours un truc bien précis qui rappelle Elvis. Et Michael Madsen qui torture le flic dans Reservoir Dogs, ça fait. Il a un truc d'Elvis, quoi, tu vois, dans sa démarche et tout. Et donc, après, quand tu parles de True Romance, pourquoi on dit depuis tout à l'heure, il y a un avant, un après, c'est que Tony Scott va mettre en scène un scénario de Tarantino. On parle d'un gars qui, depuis le début, là, Scott, Predator mis à part. C'est du blockbuster, quoi. Ça vient pas jouer sur les plates-bandes du film d'auteur ou du machin, et personne n'y croit. Et donc
les prédateurs, hein, pas Predator.
Ouais, les prédateurs, pardon. Et c'est le début aussi, c'est un nouveau départ dans la carrière de Tony Scott.
Mais moi, il n'y a pas de problème avec Tony Scott, mais j'aimerais qu'on s'appesantisse un peu plus sur Reservoir Dogs, parce que je trouve qu'on est passé un peu vite. Déjà, dans Reservoir Dogs, y a ces thèmes de prédilection qui sont là.
Ces techniques de prédilection.
Ces techniques aussi.
Montage alterné.
Le film commence par un petit-déj, déjà, dans un endroit hyper populaire américain.
Ah ouais, diner.
Johnny's Coffee, là, je crois que c'est ça. Donc ça, c'est un truc qui va revenir dans tous les films de Tarantino.
La bouffe.
Dans un endroit populaire, en plus.
Il y a un truc très important, c'est qu'il se fabrique son gang d'acteurs aussi, qui vont revenir plusieurs fois après. Et il se fait aussi plaisir avec 2-3 acteurs dedans.
Et c'est vrai que il lance, quelque part, cette génération qui sont les Michael Madsen, les Steve Buscemi, les... Comment il s'appelle l'autre
Kettle, il était déjà bien lancé, quand même.
Tim Ross, non, mais pas avec Kettle, bien sûr, qui lui faisait office de plus de. Même s'il le fait rejouer ensuite.
Ouais, c'est la porte, bah oui.
Il existait déjà avec Kettle, mais.
Il lui donne un bon coup de main.
Il y a un avant et un après Reservoir Dogs pour lui aussi.
Parce que, hormis.
Parce qu'il le rend, il le coolifie, quoi.
Les plus beaux rôles de Kettle, c'est Scorsese, Ferrara et Tarantino. C'est les trois metteurs en scène qui compteront dans la carrière d'Harvey Kettle.
Jim Jarmusch aussi. Il a fait 4 films avec lui, 3 ou 4 films avec lui.
Peut-être, je sais pas.
C'est sûr.
Mais j'ai pas dû les voir. Mais
il a fait Smoke, où c'est lui qui tient le bureau de tabac. Il a fait la suite de Smoke et il a fait Cigarette and Coffees, où il joue dedans.
Coffee and Cigarette, ouais.
Voilà.
Mais c'est pas de Jarmusch, Smoke et Brooklyn Boogie. C'est de Paul Auster.
C'est Paul Auster qui les a écrits.
Non, il joue dedans, il fait un sketch dedans, Jarmusch, mais ah non, ouais. C'est pas de lui, non. Ah ouais, mais oui, il joue le vendeur de tabac. Il joue le vendeur de tabac, ouais. Qui prend en photo son quartier tous les jours, ouais, c'est génial ça.
Ah, c'est pas Jarmusch qui les a réalisés, non, je confonds.
Non.
Autant pour moi.
Mais voilà, ouais, non. Et c'est dommage, parce qu'à part Reservoir Dogs et Pulp Fiction, il a disparu de la circulation après chez Tarantino, Harvey Keitel.
Après Pulp Fiction ?
Ouais.
Ben.
Ouais, mais c'est pas un film de Tarantino, les gars, Une Nuit en Enfer. Hein.
Ouais, Une Nuit en Enfer, c'est pas un film de Tarantino, c'est un scénar de Tarantino. Parler, donc tu sais qu'il y a un moment, il a quand même son mot à dire.
Le film. J'ai un bon souvenir du film, même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et vers la fin, dans la troisième ou quatrième émission sur Tarantino, vu comment on est parti, je ne sais pas, je pense qu'on pourra se reposer la question du poids de Tarantino dans les films de Rodriguez.
Non mais c'est un film de Rodriguez, mais tu vois très bien qu'il y a deux réalisations dans le film. Il y a toute la première partie qui est une sorte de polar de course-poursuite, hyper tendu avec des personnages complètement charismatiques.
La première moitié, c'est du Tarantino. Deuxième...
Hein ?
Je dis, ouais, t'as raison, la première moitié, c'est totalement du Tarantino. Quoi.
À l'image de Tarantino, mais on va en parler plus tard. Et la deuxième moitié, qui a l'image de Rodriguez, boursouflée, explosante et pas forcément tout le temps.
Mais finalement, moi, du coup,
mais boursouflée dans le bon sens, hein, dans le sens, ils vont tellement en mettre que tu vois, ça gonfle.
Et du coup, malgré ça, le film reste super cool, quoi. Moi, je m'en rappelle.
Et on va en parler après, Christophe. Ouais. Parlons de Reservoir Dogs. Et dernier petit point que je voulais souvenir, enfin, à moins que vous en ayez un autre, la patte Tarantino, la musique, la BO de Reservoir Dogs, où il va déjà
le choix.
Premier film réussir, ce qui est quand même assez balèze, je trouve. Petit budget, c'est là où tout le génie du mec, quand même. Petit budget, il arrive à se dégoter une brochette d'acteurs que personne connaissait et qui ronfle. Et en plus, il va asseoir sa légende. Moi, mes BO, c'est que des musiques qui existent. Et c'est que des musiques que vous allez écouter, que vous n'écoutiez pas et que vous allez écouter désormais pour toujours.
Mais il est autant passionné de musique que de cinéma, il l'a toujours dit. Il écrit ses scènes en fonction d'un morceau bien précis. Maintenant, je pense que pour lui, il y a peu de droits qui sont inaccessibles en musique. Mais moi, ça ce sera.
Il a ce qu'il veut, mais ce que je veux dire, Reservoir Dogs, elle est quand même géniale, la BO. Il y a des morceaux complètement fous.
Ah bah, de toute façon, on peut retenir.
Le morceau de l'oreille.
Bah, c'est Stuck in the Middle with You. Alors, je connais pas l'interprète, quoi, mais le générique, Little Green Bag, tout ça. Non, bah, c'est sûr. En plus, la musique est amenée dans le film parce qu'il y a une station de radio qui. Pardon ?
Non, fini.
Bon, on va en passer un extrait, tiens.
Eh ben voilà, passons le morceau de l'oreille.
Le morceau de l'oreille. Il n'y a pas une autre appellation, Yoann, que le morceau de l'oreille.
Eh ben, Stuck in the Middle with You.
Voilà. Stuck in the Middle with You.
Voilà.
C'est maintenant.
De Dr. Dre.
I fall off my chair and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah. Started out with nothing, and your pilot, you're a salaryman.
Et ouais, toujours, toujours un bonheur les BO de Tarantino. Donc là, c'était les Steelers Will avec Stuck in the Middle with You. Alors dans la BO, on pouvait retrouver déjà Joe Tex qui va revenir dans certaines BO comme Grindhouse, et puis des mecs comme Harry Nilsson, Steven Wright, gens que personne connaissait à l'époque.
Bah si, le terroir américain connaît, parce que c'est de la musique de Pecno, la musique de Caravan et de...
De Hillbilly, tu disais.
De Hillbilly, exactement. Donc ça, c'est vraiment le...
Musique d'éleveur de cochon.
Ouais, mais c'est une des grosses souches de Tarantino. Hein. Le Sud, c'est un peu comme si c'était Danny Boone, ben, en France. Mais c'est voilà, mais moi je trouve justement que là-dessus le système Tarantino dans le temps c'est assez limite sur les BO, parce que j'aimerais bien qu'un jour il se fasse vraiment composer un score et
ça a failli arriver
avec Tarantino, avec Morricone. Mais
on en parlera peut-être à la fin dans les conclusions.
Oui, non, mais justement,
voilà, c'était la première BO qui posait.
Voilà, quoi. Donc en plus d'être un cinéaste brillant, d'être un dialoguiste brillant, un directeur d'acteur brillant, c'est un DJ brillant, voilà. Mais voilà, moi je trouve que dans le temps c'est un des principes. Défaut dans sa façon de faire ses films, c'est de jamais se tourner vers un score original. C'est super mégalo et je trouve que des fois ça dessert certains de ses films.
On en reparlera bien en profondeur.
Oh. Je l'ai clashé, Quentin.
C'est ce qu'on a répété plusieurs fois. C'est ce qu'il disait Tarantino. Il a dit les chefs-d'œuvre existent. Voilà, je vois pas pourquoi j'irais m'emmerder. Je vais les utiliser moi-même. Donc les musiques, il prend celles qu'il aime et il a pas envie de s'emmerder à avoir un. Je choisis la grosse truc de popcorn en fait.
C'est pas qu'il a pas envie de s'emmerder, c'est qu'il a peur d'être déçu.
Il y a toujours une possibilité d'échec. Donc là, au moins, il est sûr qu'il est sur quelque chose d'excellent, quoi. Donc à la limite, tu peux pas lui enlever ça, le gars. Moi, je le comprends. Et quand il a son choix de Morricone pour le Inglourious Basterd, on sait que ça s'est pas fait. Je sais qu'on en reparlera. Mais le gars, il prend un mec qui est une valeur sûre, tu vois. Donc
on en reparlera, Christophe. Il y a pas de souci.
Reviens un peu sur ce que je dis quand même, parce que Ridley lui a fait deux ou trois sons originaux pour Kill Bill. Voilà.
C'est vrai. Donc là, on est toujours à True Romance. True Romance, moi, pour moi, c'est un de mes meilleurs films de Tarantino, un de mes films préférés. Pas réalisé par lui, mais je trouve que l'histoire est vraiment super bien adaptée par Scott. Il y a la touche Scott. Mais tout cet univers de Tarantino, ce personnage de la grande époque de Christian Slater, parce que malheureusement après,
elle a pas été longue, mais c'est celle-ci.
Après True Romance, il a pas fait grand-chose.
Bah Broken Arrow, ouais.
Voilà, il a pas fait grand-chose malheureusement. Et
Entretien avec un vampire.
Son personnage, il est ultra cool. C'est un putain de geek comme nous tous ici. Il va au Cinoche, il se met des films de
kung-fu.
Il rentre chez lui, il se met des films de.
Il est vendeur de comics.
De John Woo, il est vendeur de comics. Il tombe amoureux d'une bitch.
Une call girl.
Tout simplement, Slater dans le film, c'est Tarantino. Hein.
Bah, complètement, bien sûr. C'est nous tous, c'est ça. C'est ça qui est la force de Tarantino, c'est qu'on se reconnaît tous dans ce personnage, donc dans le réalisateur.
Parce qu'il a des couilles, Slater dans le film a des couilles à travers les situations qu'il s'imagine justement en fonction de tous les films et toutes les BD qu'il a vues. C'est comme ça qu'il arrive à affronter chaque épreuve. Et en plus, à la fin, ça se finit où ? Ça se finit à Hollywood, chez un producteur, avec un agent. Ça parle de films, le fameux film sur le Vietnam dont il parle à la fin chez le producteur, le fameux Lee Donovitz. Hein, excellent. Saul Rubinek, l'acteur, est génial. Et il parle d'un film qui n'existe pas, mais qui aurait rapporté sa brouette d'Oscar dans l'univers True Romance, c'est Mort sans médaille. Et toute la discussion sur le cinéma à la fin est géniale, quoi. T'as raison dans un sens, je pense qu'en termes de légèreté, c'est un de ses meilleurs films, quoi.
Et en plus, comme tu le dis, donc il place plein de. Tu sens vraiment qu'il a voulu mettre tout ce qu'il était lui, donc il place plein de ses références, le comics, machin. La fameuse scène quand ils sont chez lui avec Rosanna Arquette et qu'il regarde la scène du
Syndicat du crime 2,
la fusillade de fin. Qu'est-ce qu'il dit, Slater ? Il dit la meilleure scène du cinéma, je crois, carrément.
Non, je crois pas, non. Non, ils en parlent pas. Il lui montre
la scène.
En fait, non, elle regarde ça. Je crois que c'est quand il rentre, en fait, c'est avant de partir récupérer ses affaires ou en revenant, en fait. Mais il fait juste des cuts sur le gros plan, les gros plans de Chow Yun-Fat et de Loyal Man.
Est-ce que du coup, c'est le meilleur Tony Scott ?
Bah, c'est un de ses meilleurs.
Bah, pour moi, c'est le meilleur Tony Scott. Ouais.
sans aucun doute. Ouais. Mais en plus, c'est le fond et la forme. T'as vraiment le fond Tarantino et la forme Tony Scott. Je veux dire, ça va à 200 à l'heure, il y a du filtre, c'est cadré bien.
Parce que les deux jeunes, les deux héros sont deux jeunes acteurs, Slater et Arquette, mais derrière, il y a du lourd.
Attention, le casting de folie. Il y a Dennis Hopper, Christopher Walken, Brad Pitt, Chris Penn, Tom Sizemore. Ouais.
C'est déjà pas mal.
Ouais, et on est en quelle année là?
En
93. Donc en fait, le script se vend assez vite. Voilà, grâce à ça, il a encore une fois son nom à l'affiche. Et à partir de ce moment-là, voilà, il y aura du Tarantino de partout, quoi. Oui, parce qu'apparemment, il y a mis beaucoup de lui-même. Mais bon, le résultat étant, il adore le film. Hein. Il adore True Romance. De toute façon, il adore. Je crois que le film de Tony Scott qu'il préfère, je crois que c'est Days of Thunder. C'est Jours de tonnerre. Donc.
Man on Fire. Un film brûlant comme l'enfer.
Bah, en tout cas, il adore Tony Scott. On rappelle d'ailleurs sa fameuse tirade sur Top Gun, qui est un film gay déguisé. Et
Jours de tonnerre, c'est une plaisanterie, non?
Non, non, il est ultra fan de Jours de tonnerre.
Jours de tonnerre, lequel?
Days of Thunder avec Tom Cruise.
Mais on va.
Il est fan de Case, ça s'explique aussi pour ça. Enfin, tu vois.
Il est pas une surprise près, parce qu'il faut quand même se souvenir qu'il est quand même ultra fan du Superman de Bryan Singer.
C'est vrai.
Mais moi, je peux pas lui.
Je
peux pas lui en vouloir non plus. Mais je disais, ouais, il est fan de voitures, il est fan de Vanishing Point, entre autres, dans ses films préférés. Et puis le Pussy Wagon qu'il a fait construire et qui garde pour lui, tu vois, c'est aussi un peu
un
fétichiste de la caisse. Fétichiste de la caisse, j'allais dire, et des pieds. Il a aussi quelque chose avec les pieds, puisqu'il y a à chaque fois, quasiment dans chacun de ses films, il y a une scène avec des pieds, que ce soit pour le scénario de Une Nuit en Enfer à Salma Hayek, où il boit à son pied, tu vois, la scène de Pulp Fiction que tout le monde connaît. Putain, il y a quoi d'autre? Oui, dans Inglourious Basterds, la scène où Christoph Waltz enlève la chaussure de Diane Kruger. Enfin voilà quoi, quasiment tous ses films.
Encore
une scène.
Fois, Christophe, toi, tu es une sorte de. T'es un peu notre Martin.
Je suis retour vers le futur.
Il est déjà dans la prochaine émission.
Il est déjà la semaine prochaine, Christophe.
Je parle juste du fétichisme des pieds qui apparaissent dans chacun de ses films, tu vois.
C'est grand thème et tout. Parce que là, par exemple, dans.
Non, pas d'entre romance, non, mais voilà. C'est pas lui qui réalise aussi, c'est pour ça.
Et oui, donc c'est pour ça qu'on en parle pas maintenant.
Alors, bah, par contre, ce qui est marrant d'entre romance, c'est que.
Pourquoi
le film est génial? C'est que le film offre plusieurs sensations différentes. Alors, t'as la rencontre, le romantisme, donc t'as tout ce qui est lié à la romance, le truc qui vit à 100 à l'heure, ils se marient le lendemain, ils se font tatouer, machin, c'est coup de foudre. Il y a le polar, et puis c'est un pulse de scène. Culte, t'as la scène où Christopher Walken tue Dennis Hopper avec la diatribe sur les nègres au Sicilien.
C'est ton culé de Rital, effectivement, ce qu'il en est, quoi.
Tu risques d'avoir des problèmes, hein, je sais pas, avec les ligues mafieuses lyonnaises.
Je sais pas,
donc, ça, c'est de l'orfèvrerie, c'est super bien écrit.
Aucun problème, moi, je suis pas...
Si je serais là, je lui dirais 10 putes nègres. Bon, il est pas là.
Ensuite, donc, t'as cette scène qui est culte, la scène où Patricia Arquette se fait tabasser par James Gandolfini, qui doit sa carrière lui aussi à son personnage de tueur névropathe de True Romance.
C'est vrai, je l'avais.
Voilà.
Qui était bien maigre à l'époque.
Ouais, qui était déjà bien. Mais plus mince.
Qui était assez Gandolfini quand même.
Mais scène super culte d'une violence et poétique en même temps, parce que quand il la regarde souffrir et qu'il lui raconte justement sa première expérience, la première fois que j'ai dessoudé un gars, j'ai vomi, machin, tout ça, puis après elle devient une espèce de furie vengeresse, elle l'explose, elle le défonce à coups d'Erwick et de chiottes.
Et le montage parallèle avec Slater qui va lui acheter à manger,
ouais.
Dans la plus tradition américaine, dans une cabane, comme ça il achète un hot dog.
Qui parle de ciné avec un gars, je crois.
Voilà, il parle de ciné encore une fois.
Et la scène d'action finale chez ce fameux Lee Donovitz, quand même. Moi j'adore ce personnage, je trouve qu'il est. Enfin, il est tellement. C'est Joel Silver. C'est Bruckheimer, c'est peut-être plus Don Simpson encore, quoi, parce qu'il y a un trafic de cam.
C'est Tom Cruise dans
c'est Les Grossman.
C'est Les Grossman, hein.
Ouais,
dans,
c'est ça.
Pour ça
ouais, ou Don Simpson, parce que quand même, il achète de la cam. Mais...
Ah oui, non, bah, de toute façon, c'est qui Tom Cruise C'est bon, il s'est appuyé sur. Qui n'est pas seulement une légende. Un jour, on fera une Simpson Bruckheimer.
Ce serait un Don Simpson dans Tropic Thunder qui aurait pris conscience qu'il allait droit dans le mur et qui serait devenu végétarien, sportif, parce qu'il boit que du Coca Light. Enfin bref. Et la scène d'action finale, qui est monstrueuse, qui fait quand même bien penser à du Peckinpah. Pleine de ralentis, plein de points de vue différents.
Je pense à
John Woo.
Voilà, John Woo et compagnie déjà.
Ouais, non, moi je trouve plus Peckinpah quand même.
Tony Scott, lui, il a enlevé tous les effets. sur esthétisant asiatique.
Mais il a mis les suresthétisants Tony Scott.
Voilà, mais il a mis les filtres. Il a gardé quand même l'impact, tu vois.
Tu peux pas, avec un duel à plus de deux personnes, tu peux pas non plus omettre le bon, la brute et le truand.
Oui, oui, non, mais certes.
À un moment donné, consciemment ou inconsciemment, de toute façon, le spaghetti western chez Tarantino, c'est latent. Donc tu sais là aussi qu'il y fait référence.
Et un milliard de clins d'œil à Elvis encore une fois dans ce film. Donc la scène d'intro, comme on disait tout à l'heure, où Christian Slater dit son amour d'Elvis. Il voit Elvis quand même en fantôme qui vient lui donner des conseils. C'est Val Kilmer qui joue Elvis. Je t'aime bien petit depuis toujours et pour toujours. C'est lui qui lui... C'est Elvis, l'âme de l'Amérique, qui lui dit mais prends un flingue et va dessouder ce pourri de Drexel qui est joué par Gary Oldman. La scène où Slater,
on avait oublié, hein.
Voilà, la scène où Slater va chercher
une galerie incroyable.
Val Kilmer, Gary Oldman. Et c'est ça le
talent. Et Samuel Jackson qui dit qu'il bouffe pas les qui dit que lui il bouffe les chattes, c'est son pote.
Exactement.
Qui bouffe pas les chattes.
On recrache rien.
Ouais.
Non, mais excellent. C'est-à-dire que Tarantino il a écrit ce script comme il l'aurait fantasmé, je pense.
À 100 à l'heure, c'est super rock'n'roll.
Là, il n'aurait pas pu avoir de toute façon ce casting phénoménal qu'il y a dans True Romance. Et qui fait que le film fonctionne.
Attention, Jas, parce que le casting phénoménal dont tu parles, il n'y a aucune tête d'affiche qui vaut la peau des couilles. Brad Pitt, à l'époque, c'est juste Thelma et Louise. Je crois qu'il a peut-être déjà fait Cool World, tu vois, mais c'est pas la superstar. Michael Rapaport, qui joue le mec qui habite avec lui, bon, mais il aura sa petite carrière, mais c'est pas fantastique non plus. Denis Hopper et Christopher Walken, ça a pas dû coûter un bras, parce que c'est quand même des caméos.
Un peu plus, quand même.
Oui, un peu plus, mais tu vois, c'est pas comme si à l'époque, début des années 90, t'appelais Schwarzenegger, Stallone, Eddie Murphy, tu vois.
Oui, ouais, c'est pas.
Mais par contre, c'est la Pléiade est rocambolesque, quoi, tout. Et puis le film.
Bon, Val Kilmer, voilà, il avait déjà sa petite carrière.
Ouais.
Top Gun.
Ah bah non, Val Kilmer, c'est peut-être la plus grosse star de l'époque du générique. Et tu vois jamais sa ganache. C'est vrai. C'est quand même fantastique.
Mais ce qui est génial, c'est que Tony Scott, il l'a compris, ça. Il n'a pas été prendre des bras cassés pour faire des seconds couteaux qui auraient balancé leur réplique sans aucune.
Ouais, mais attention, c'était.
Non, voilà. Et je veux dire, le casting qu'il a fait Tony Scott pour son film, je sais pas dans quelles conditions ça s'est fait. Je sais pas qui c'est qu'il a fait, mais j'aimerais bien savoir qui c'est qu'il a fait. Et ben, c'est certainement exactement le même délire de casting qu'aurait fait Tarantino.
Ah oui, c'est sûr.
C'est pour ça que le film fonctionne, c'est que t'as l'impression que bon, Tony Scott il a ce talent, je pense, de s'accaparer une œuvre, mais sans vraiment la détruire, tu vois.
Ah bah non, mais
il arrive à se fondre dans un univers, c'est pas forcément tout le temps de qualité, hein, mais je pense qu'il arrive à le faire vachement bien et que les deux fois. Où je trouve il l'a vachement bien fait dans ce délire-là, c'est True Romance et Domino, qui sont pour moi ces deux films à Tony Scott qui se ressemblent.
Les deux Samy.
Les deux films de Tony Scott qui se ressemblent le plus, je trouve.
Les deux films produits par Adidas.
Avec des personnages forts, tu vois, des ganaches, des mecs old school.
C'est ses récréations à Tony Scott, parce que quand tu bosses pour Bruckheimer 9 fois sur 10, t'as envie aussi un peu de te lâcher, parce qu'il a quand même des ambitions. True Romance, à l'époque, ça nous surprend, parce que... Tu dis le mec qui a fait Jour de tonnerre, il va réussir. C'est parce que je crois que c'est Jour de tonnerre le film qu'il fait juste avant. Hein. Donc faut vérifier. C'est soit Jour de tonnerre, soit Revenge. Enfin, dans ce goût-là, un truc dans ce goût-là.
Revenge, chef-d'œuvre.
Et du coup, à l'époque, ça fait bizarre. Mais Tarantino, je sais pas si ce que vous en pensez, mais ça commence à être hype à ce moment-là. Donc il faut être dans le film où il y a. Donc les acteurs, je pense qu'ils sont bien contents aussi d'aller faire juste 5 minutes dans le truc à la mode, entre guillemets.
Romance.
Ouais, je pense, ouais.
Moi, je donnerais le déclic Pulp Fiction, quoi. Oui, parce que c'est là où il relance Travolta.
Non, mais dans les
couloirs à Hollywood, tu sais.
S'il était déjà pas hype. Parce que même en relançant ce genre d'acteur, il avait quand même Bruce Willis, qui à l'époque était Bruce Willis, quoi. Même si Travolta et les autres sont plus des seconds couteaux. D'avoir Bruce Willis pour faire un caméo dans ton film, t'es déjà pas mal. Quoi.
Pulp Fiction, c'est la consécration, mais avant, il y avait quand même déjà pas mal de buzz. Quoi.
Il va plus loin qu'un caméo, Bruce Willis, dans Pulp Fiction. Hein,
c'est un rôle principal. Hein.
Oui, non, mais je veux dire un sketch, quoi.
Il tue Travolta, je vous rappelle. Mais il va ce soir à la télé.
Ce soir? Ouais.
Pulp Fiction? Ouais, bon.
Ah bah oui, la VF est
une des dernières.
Est vraiment, vraiment réussie.
On va pas aller dans l'émission, dans la prochaine émission avec
Retour vers le futur, pareil. C'est Doc et Marty.
Il tourne True Romance juste avant, non? Il a réalisé un des meilleurs films de sa carrière, enfin un des très bons films de sa carrière, Le Dernier Samaritain.
Oh putain, on a oublié, c'est vrai.
Die Hard 2, il a réalisé Die Hard 2.
Eh bah c'est cool que tu nous lances là-dessus, parce que ça prouve aussi que Tony Scott, il y a quand même beaucoup de monde, surtout en France, qui bave sur ce gars-là. C'est le mec, quand même, il pourra dire, moi, je travaille avec Shane Black et Tarantino, deux des plus grands scénaristes hollywoodiens des 30 dernières années.
Non, mais qui c'est qui veut tester Tony Scott ? Je rappelle, nous, non. Pour les auditeurs distraits,
Top Gun.
Non, mais Les Prédateurs, qui est génial. Top Gun, Le Flic de Beverly Hills 2, bon, il s'est un peu perdu.
Ah non,
c'est malade.
Mais c'est un peu perdu, je veux dire, c'est pas un chef-d'œuvre non plus.
Ah, mais c'est un pur Tony Scott, par contre.
Oui, c'est un pur Tony Scott.
Non, mais le 2,
Revenge,
le 2
moi,
il encule
bien quand même.
Non, mais le 2, il encule 20 fois le 1. Hein,
et le 3.
Arrête, mon frère.
Ah non, c'est. Parce que justement, ça devient un vrai actionneur et plus du tout une comédie.
Oui, bah voilà, non, mais on change. Après, il y a le 3 qui part complètement en couille. Quoi.
Ouais, le 3, c'est de la merde.
Jour de tonnerre, donc après Revenge, Le Dernier Samaritain, True Romance, USS Alabama, Le Fan, Ennemi d'État.
Blablabla, blablabla.
Le jeu Spy Game, Man on Fire, Domino, Agent Orange, c'était un court métrage déjà vu. L'attaque du métro 1, 2, 3, Unstoppable, dernier en date. Petite parenthèse, on n'en a pas fait pour la news, mais un petit mot sur Unstoppable, le dernier Tony Scott.
Bien, bien.
Très bien. Moi, j'ai
bon film de prolo. Voilà.
J'ai beaucoup aimé. Je vais rien inventer en disant ça parce que. Sur l'excellent site Cinématiseur, des gens qui connaissent le cinéma et qui savent de quoi ils parlent, ils avaient fait une très bonne critique de ce film où justement ils appuyaient sur le fait, comme dit Guillaume, film de prolo, film de l'Amérique. Waouh ! Film de l'Amérique ouvrière, voilà, qui rend hommage à cette Amérique-là qu'on ne voit plus dans les films, c'est-à-dire l'Amérique du fin fond des États-Unis. Qui
c'est vrai,
qui oui bah oui qui perd parce que il y a des parce que c'est une entreprise qui est en train de licencier parce que voilà c'est les usines qui fument c'est cradingue c'est pas beau c'est des gens qui sont
c'est pas très traité de Kyoto tout ça quoi
non pas trop.
Et c'est pas non plus une ode à l'héroïsme primaire et balourde c'est pas genre ouais on y va ouais parce qu'il faut qu'on y aille tu vois c'est un peu plus subtil que ça
c'est pas d'ailleurs toutes ces merdes hein.
Non. Non, c'est un film. Moi, après, je trouve que c'est un film catastrophe, un peu à l'ancienne.
Tu te décrédibilises complètement en disant ça.
Mais l'a-t-il déjà été ?
Il y a des gens qui vont t'écouter, Jas.
Non, mais ouais, tu vois, ça fait un peu penser au film catastrophe, un peu, je trouve, un peu 70s. Il n'y a pas de synthèse dedans. C'est que des effets pyrotechniques. À un moment, t'as un wagon qui déraille, qui s'expose dans des graviers. Tu vois que c'est du vrai. Il y a peut-être un peu de maquette, même. Old school. Bah, plus.
C'est de la radio, donc micro.
Bah, alors Christophe vous demandait si c'était mieux que Les Pirates du Métro.
Oui.
C'est un peu plus surprenant, et puis t'es dans le film
c'est mieux
catastrophe.
Joué, parce que franchement, dans Les Pirates du Métro, là, on fait une grosse digression sur Tony Scott, mais John Travolta, il m'a saoulé. Hein.
Bah, ça touche déjà, c'est pas possible. Bref.
Ah, moi j'ai bien aimé, franchement. Je trouve que Travolta, il en fait un peu trop des caisses, mais le film en lui-même, je l'ai trouvé bien. Et Denzel, c'est peut-être la première fois où il m'a pas saoulé depuis un bon moment.
Bah, Denzel, dans Pelham 1, 2, 3, c'est l'amorce complète de son rôle dans Unstoppable.
Et donc, moi, c'est ce que j'ai bien aimé dans Pelham, c'est que justement, c'est pas le Denzel hyper propre sur lui, comme d'habitude, qui m'a saoulé déjà dans tous les films.
Non,
hein, il est gros.
C'est avec des kilos de trop, c'est avec des lunettes.
Il a un vieux gilet orange dégueulasse.
Ah, puis c'est pas du tout le héros. Quand tu vois le film, enfin, un des films qu'il avait fait juste avant, dans Man on Fire, où il fait justement l'esprit vengeur, tu vois. Là, c'est vas-y, attends, fais encore un peu plus de bruit. C'est l'antithèse, quoi. C'est effectivement, c'est le gars comme on peut en voir tous les jours, quoi. L'employé. Ah, voilà. L'employé
Unstoppable, il est dans mon top du cœur de l'année.
Et ben voilà.
Peut-être pas de la raison.
Donc, petite parenthèse de Tony Scott.
Tout ça, ouais, voilà, on est passé.
On revient
à Quentin.
Quentin et Tuerné. Non, enfin, on, a,
ouais, on va
on
passer.
Encore
on sort de True Romance.
On sort de True Romance. Donc, chef-d'œuvre absolu, on est tous d'accord.
Ah, bah, True Romance, il est génial.
Qui fait partie vraiment pour moi de. À l'instar d'un film de Tarantino, c'est pas réalisé par Tarantino, mais pour moi, c'est.
Bah, déjà, il y a un score.
C'est, voilà, ça fait partie des films de Tarantino, des meilleurs films de Tarantino.
Il y a un thème musical, le thème de True Romance, qui est de Hans Zimmer. Voilà. Un super beau thème. Ouais,
qu'on pourrait presque écouter maintenant. Mais.
Bah, on l'écoute. Écoutons-le maintenant.
Eh bah, écoutons-le maintenant. Thank you.
c'était Hans Zimmer, You're So Cool, sur la BO de True Romance. Donc on va passer...
Voilà. Et juste pour finir sur, sur ce film, on s'aperçoit avec tout ce qu'on dit sur ce film, on revient à ce qu'on disait au début, c'est que les années 90, ça pèse.
Ouais, ça va être compliqué, les top. Tuarné, Oliver Stone, Guillaume,
ouais, bah le...
où en est-il à cette époque-là?
Bah, il a fait une mini Chimino, en fait, Oliver Stone, c'est-à-dire qu'il a été très haut très vite. Oscar, tout le monde l'adorait, quoi. C'était le...
Tard les Oscars.
Voilà, c'était le Golden Boy. Il a fait tourner Tom Cruise au moment où Tom Cruise voulait absolument décrocher une statuette. Il n'a toujours pas eu. Je pense qu'il ne l'aura jamais, d'ailleurs, Tom Cruise. Mais bon, c'est une autre histoire.
Mais ce sera un peu volé, mais il ne l'aura jamais, je pense.
Oui, c'est dommage. Bah, en même temps,
il aurait déjà dû l'avoir.
On pourrait se dire que Kubrick ne l'aura jamais eu non plus. Donc, ils sont pas assez prêts, hein, les Oscars. Bref. D'ailleurs, un jour, il faudra faire une spéciale, les Oscars. Pour,
les Moscars.
Pour bien se rendre compte des fois des injustices incroyables.
De la fourberie de Scapin.
Ah ouais, complètement. Ouais. Bref. Donc, Stone, là, il sort de, entre le ciel et l'enfer. Entre ciel et terre, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec Tommy Lee Jones. Énième film sur le Vietnam, sur un mec qui revient du Vietnam, qui est amoureux d'une vietnamienne, ça part en couille, blablabla. Et pas con, vu qu'il voit que Tarantino c'est hype, il dit bon bah tiens, moi je vais voir ce que ça donne, son script.
Jusque-là, il avait réalisé vite fait tous ses films quand il était jeune, là, Salvador.
Salvador, super bien avec James Woods quand même.
Voilà. Platoon. Wall Street, Conversation Nocturne, Né un 4 juillet, Les Doors, JFK, et donc Entre Ciel et Terre.
Voilà, Entre Ciel et Terre.
Le meilleur de ses films étant Wall Street.
Entre Ciel et Terre, 93.
Et là, ça retombe un peu pour lui, mais bon, il a quand même cette image de mec sulfureux et tout, et il est de plus en plus énervé, surtout, parce que Stone, c'est quand même un lettré, quelqu'un qui a une culture générale extrêmement vaste. Et il
parle français.
Il est polyglotte, ouais, il parle plusieurs langues. Et il est surtout, il a jamais rechigné à travailler des scénarios pour d'autres. Il a quand même écrit L'année du dragon pour Cimino, Scarface pour De Palma, tout ça, voilà. Et donc, l'écriture, c'est quelque chose, que ce soit un roman ou un scénario, qui le touche beaucoup. Et quand il voit le script de Tuarné, qui passe entre diverses mains, bah, il dit voilà, je vais en faire un truc. Et il part pas du tout sur le trip complètement psycho qu'on connaît maintenant. Il part sur un film normal. Il aura souvent l'habitude, il dira souvent, le film a pris cette forme-là pendant le tournage. C'est un peu ce script qui a, et toute l'énergie qu'on donnait, qui a donné ce chemin au film. Et bah voilà, Tuarné, c'est un film qui est ultra 90s. C'est le dark side de MTV complètement, quoi, puisque c'est une critique de la télévision comme on en a peu vu quand même.
Ce qui a du coup profondément énervé Tarantino, qui est enfant de la télé.
Bah oui, mais c'est surtout que Tarantino n'est pas un réalisateur est réel. Il s'ancre jamais dans le réel, Tarantino, à part sa violence qui parfois choque parce que tu dis « Ah, j'aimerais pas que ça m'arrive ». C'est un cinéaste qui est dans une bulle de cinéma, qui n'est pas du tout connecté aux réalités du monde, à part peut-être le portrait de Pam Grier dans Jackie Brown, cette femme qui vieillit, tout ça, l'histoire d'amour avec Robert Forster. Sinon, la réalité n'existe jamais dans les films de Tarantino. Du coup, quand tu vois Tuarné et les gros sabots de Oliver Stone, qui est quand même pas le mec le plus fin de la Terre, du coup, bah ça, il déteste le produit fini, quoi. Il déteste ce que son script, c'était une espèce de True Romance un peu plus hardcore, quoi, à la base.
Il n'est pas dans la réalité, mais il a quand même toujours un sous-texte social.
Tarantino ?
Oui.
Bon, quand ?
Ah, Jackie Brown.
Oui, voilà, je te dis juste, à part le portrait de Pam Grier dans noyé quand même au milieu d'une intrigue complètement rocambolesque, à part ça, dans ses films, il n'y a rien.
Pulp Fiction aussi, quand même.
Pour Jackie Brown,
très léger.
Il adaptait un roman qu'il adore, donc forcément, il a mis un peu les petits plats dans les grands, quoi, je veux dire, tu vois.
Oui, mais...
Il a voulu désosser complètement le roman.
Surtout que Jackie Brown, ce sera la première fois, je crois, qu'il s'empare d'un truc qui, à la base, n'est pas de lui du tout, qui va transformer complètement, c'est Delmore Leonard, le script. Mais voilà, il déteste Tuarné, il déteste ce que Oliver Stone en a fait. Je crois même qu'il s'est battu pour qu'on enlève son nom du générique, ça n'a pas marché. Personnellement, le film, je l'ai vu au cinéma en salle à l'époque, j'avais 16 ans, je suis ressorti du truc, j'étais dévasté, quoi. J'avais vu un truc. Je pense que dans la forme, ça annonce, ça fait un peu naître tout ce truc vachement cut, où ça va à 300 à l'heure, où t'en as partout, ça dégueule du cadre, je veux dire, t'as plein de couleurs, t'as plusieurs formats.
Dans l'animation, t'as plusieurs formats.
Ouais, non, mais c'est il est complètement taré, ce film.
Il se permet de faire... une fausse série télévisée complètement trash.
Le sitcom, ouais.
Au milieu, ce que fera Tarantino des années plus tard, il va te mettre une séquence animée.
Et c'est vrai que Tarantino.
Qui revient plusieurs fois.
Ce que Tarantino détestait à l'époque de Tuarné, je pense que en connaissant maintenant l'auteur et sa filmographie, bah quelque part, ce qu'il lui reproche à ce film, c'est uniquement son côté politisé, on le disait, et engagé pour moi envers l'entertainment et le média.
Ah oui,
c'est une... supporte pas.
Défonce qu'on
fait. Formellement, ce qu'on a fait
Stone.
Oliver Stone, je pense que t'as raison, Tarantino, il tend à ça de plus en plus. Quand tu vois son Boulevard de la Mort, qui est déjà un film coupé en deux, quand tu vois Kill Bill, un film coupé en deux avec du dessin animé dedans, avec des flashbacks en noir et blanc, des trucs super travaillés en couleur, des scènes machin. Voilà,
il y a un truc
tend vraiment vers cette esthétique-là.
Il y a un truc qui bouge jamais par contre chez Tarantino, c'est le cadre qui est toujours, hormis deux, trois fois, le cadre est toujours très droit, alors que Tueur né, c'est un film super bancal au niveau du cadre qui part dans tous les sens. La caméra, c'est comme si elle touchait jamais terre, quoi. Et ça, je pense que c'est un truc qui lui déplaît. Puis il commençait à être célèbre, donc il s'est dit merde, fais chier, j'ai pas envie d'être associé à ce truc complètement faisandé. Le film, ce sera un four. Voilà. Puis il est un peu construit en plus comme True Romance, c'est-à-dire que t'as une grosse ganache de second rôle dans le film, quoi. T'as Robert Downey Jr. qui joue le Wayne Gale, le présentateur télé vedette, l'espèce de vampire médiatique là, bien dégueu. T'as Tom Sizemore qui fait le Jack Scagnetti. Donc c'est ça aussi avec, alors ce personnage de Scagnetti, c'est ça fait partie de ces personnages qui font partie de la constellation de Tarantino, c'est-à-dire que des Vic Vega, des Scagnetti et des Alabama, t'en as dans les
Vic Vega, des Vega.
T'as Vic Vega, il y a Vic Vega qui existe.
Oui, mais Vega, je veux dire, la famille Vega, il y en a...
Ah oui, pardon, oui. Bah, il avait un projet, les frères Vega, machin, ça, voilà, enfin, comme d'hab. Hein. Et ça, dans tous ses premiers films, ces noms reviennent, comme si tu pouvais tisser des liens entre True Romance, parce que dans True Romance, on parle d'un frère Vega, je crois. Dans Reservoir Dogs, on parle d'une certaine Alabama qui aurait fait des coups avec Harvey Keitel. Et là, donc Scagnetti, qui est contrôleur judiciaire dans Reservoir Dogs, qui est là et flic, en fait c'est Tommy Sizemore qui joue un flic. Donc tu vois, Tarantino a ces petits trucs là qui saupoudrent un peu de partout, voilà, qui font que tu relis un peu tout ça, machin. Et quand Stone récupère le truc, il en fait un truc à acteur aussi, quoi. Je veux dire, il y a, à part ces mecs là il y a qui d'autre, il y a, ben, à part les deux héros, il y a Tommy Lee Jones qui fait le gardien de la prison, qui est complètement farfelu. Je sais pas si vous vous souvenez un peu son personnage avec son pince-nez.
Un pré double face de Schumacher dans Batman.
Putain, ouais.
Déjà le duo de base, déjà Woody Harrelson et Juliette Lewis, qui sont exceptionnels dans leur rôle. Tom Sizemore, Jared Harris, c'est celui qui c'est le vieux là.
Le vieux.
Celui qui est barbu.
Jas qui ne sait pas, donc qui brode.
Celui qui a des yeux là.
À un moment, il a des yeux.
À un moment, il est dans le film là.
Ah, je sais plus dans quoi il a joué Jared Harris, mais ça ganache une ganache d'anglais de merde là. Ça vous dit quelque chose, non?
Oui, peut-être.
Ed Harris.
Il a joué dans pas mal de séries télé.
Ok, d'accord. Films,
enfin bref.
Les gens, sur internet, vous avez qu'à savoir d'abord.
Et tout le monde est niqué dans ce film. En fait, les tueurs, donc ils sont fous. Mickey et Mallory sont très panés. Ils tuent. C'est une espèce de balade sauvage ou bien américaine en plus dans le délire. Ils ont quoi? Ils ont une quelle voiture? Ils ont une Cougar ou je sais pas quoi. Ils ont une vieille muscle car. Traverse l'Amérique des pecnos, bah, pareil.
Tu cites certainement le film référence pour ce couple-là, La Balade Sauvage.
La Balade Sauvage, oui, voilà, complètement. Et les flics sont pourris. Je veux dire, Scagnetti, il viole des femmes, il tue des putes, il est prêt à tout pour les attraper. Il est complètement omnubilé par la capture des Knox. Le gardien de prison, donc Tommy Lee Jones, il est complètement dépassé par les événements. Et puis lui, de toute façon, il est... Oui, il a un grain, et puis il est bien conscient que dans son établissement pénitentiaire, il ne résout rien du tout. Et puis, tu as Wayne Gale, le présentateur télé, qui est prêt à vendre son âme pour l'audience, et qui, en plus, à la fin, prend fait et cause pour Mickey et Mallory. Mais toute l'ironie de l'histoire, c'est qu'à la fin, ils le descendent. Et avec la réplique géniale, c'est il laisse toujours un témoin, normalement, pour que quelqu'un raconte. Et là, c'est la caméra qui sert de témoin à Wayne Gale. C'est son propre objet qui le couille, en fait, à la fin. Non, c'est génial. Voilà.
Bah, y a pas de toute façon, il n'y en a pas un pour sauver l'autre dans ce film.
Non, bah eux à la fin à la limite.
La seule chose qui sauve eux, c'est que eux, ils sont amoureux.
Et ils sont cool.
Et c'est leur, leur principale motivation.
C'est ce qui sauve aussi le premier couple de True Romance, hein, c'est l'amour. Hein.
Bah oui, bien sûr.
Et donc.
Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour, quoi, merde.
Et d'ailleurs,
c'est vrai que dans les premiers, c'était plus Bonnie and Clyde, un peu dans le délire, tu vois, apprenti Bonnie and Clyde, quoi. Alors que là, on était plus dans.
Stage 2.
D'ailleurs, on l'a pas dit, mais quand on dit aujourd'hui à Tarantino, ah dommage, on aimerait bien que vous fassiez une histoire d'amour et tout, il dit mais je l'ai déjà écrit. Ça s'appelle True Romance.
Il en a écrit deux même.
Ouais, mais bon, du coup, faut pas trop lui. Mais je suis sûr qu'un jour il reviendra là-dessus parce qu'il peut pas non plus. Il connaît trop le cinéma et puis il connaît trop l'importance d'un mec comme Oliver Stone dans.
Oui, mais je pense que son ego est encore plus fort.
Ouais, c'est vrai, possible. Ouais. Puis surtout, le film va se planter. Voilà, encore une fois, la violence, les gens comprennent pas.
Décrié quoi.
Bah violent, ultra violent pour le coup. C'est un peu le Orange Mécanique des années 90, hein.
Voilà. C'est ce que tout le monde disait.
Ah bon?
Le Orange Mécanique.
Bah c'est un peu ça finalement. Enfin dans le côté sulfureux.
Oui,
dans
mais
le
c'est
côté...
un peu facile parce qu'à chaque fois qu'il y a un film genre.
Bah il y a toujours
la violence machin tout. Bah... Oh le Orange Mécanique.
Mais non mais c'est comme il y a toujours le machin quelque chose tu vois. Toi cette année pour Enter the Void tu disais c'est le 2001 du film français. Tu vois, il y a toujours une
oui,
référence.
C'est... Enfin, il faudrait que j'explique pourquoi je dis ça, parce que là, on peut vraiment prendre pour un abruti en disant ça. Mais
Pas du tout, mais qui aurait cette.
Non, mais voilà, il y a toujours. Y a des...
bah, qu'il se présente physiquement à la radio.
Il y a. Y a... Ici, tu vois ce que je veux dire,
non,
y a des...
Je trouve que c'est pas faux.
Il y a des maîtres étalons, quoi.
C'est pas faux, parce que le film se veut justement un pamphlet sur la violence qui nous est, assénée par les médias, sous toutes les formes, quelques formes qu'elles soient. C'est pour ça aussi que. Il y en a qui disent « Ouais, non, mais là, il a mis des trucs comme ça, des trucs comme ça, des trucs comme ça, des trucs comme ça. » Mais c'est fait exprès. C'est pour être assez représentatif. Alors, comme tu le dis, c'est pas forcément l'homme le plus fin du monde, Oliver Stone, mais il a une véracité et un discours que tu peux jamais lui enlever, quoi. C'est pas un mec qui va te faire des choses gratuitement.
Non, bien sûr.
Et les choses qu'il fait visuellement dans son film, elles ont un but. Et ce but-là... Il fonctionne, et dans son histoire à lui, elle fonctionne.
C'est vomitif, c'est qu'on t'en met tellement plein la gueule, c'est ce que subit Alex dans Orange Mécanique, en fait. Et ce voilà, que nous, on subit devant Orange Mécanique.
De toute façon,
l'état. En plus, pour moi, pourquoi on peut dire que c'est un nouveau Orange Mécanique, c'est que Kubrick, il a fait son truc à une certaine époque, et lui, il arrive à la génération MTV, et il te le fait pour la génération MTV avec ses armes à lui. Lui, il s'est jamais revendiqué d'avoir fait un Orange Mécanique, tu vois, ça aurait été...
Prétentieux
et compagnie. C'est que effectivement, quand tu regardes le film, il peut te faire penser à ce même degré de violence. Les images que Alex prend dans les yeux, qui sont des images d'époque, bah, c'est un peu tout ce qu'on nous montre avec un second degré assumé dans Tuarnet, quoi.
Ça, t'as raison, puis il y a aussi la patte graphique qui est marquée, quoi, dans Orange Mécanique, t'as ce blond très très pur justement qui contrebalance toute la violence qui est à côté. Et là, au final, c'est quoi les couleurs de c'est du orange, c'est du rouge. Enfin, c'est des couleurs très, comme tu dis, criardes, très MTV. Et justement, outre le côté de l'histoire, la violence, la critique de la société, t'as aussi, moi, c'est ce qui me gêne un petit peu quand je le regarde maintenant, parce que je me rappelle avoir aussi subi une claque quand je l'avais vu jeune, mais quand je le regarde maintenant, c'est cette patte graphique qui me dérange, c'est ce côté un peu, comme tu disais,
c'est
vomitif,
un coup de vieux, quoi, c'est ça.
Qui fait que c'est un peu, je subis un peu des fois le
graphique. Bah c'est un film qui arrive 5 ans avant Fight Club, quand même, et qui, dans les années 90, si tu veux retenir deux films qui auront pour thème la critique dans son ensemble, et après médiatique ou sociale pour Fight Club, c'est des films super complémentaires. Sauf qu'il sera beaucoup plus facile d'adorer Fight Club dans le temps, je veux dire, parce que Fight Club est peut-être plus cérébral, quoi, plus tout droit. Même si visuellement, il est vachement audacieux. Mais je trouve ces deux films vraiment complémentaires, quoi. T'as le film du sale gosse, tu vois, qui est là pour tout niquer, pour s'amuser, pour y aller vraiment à fond les ballons. Puis t'as le film du mec qui va un peu plus réfléchir son truc, qui va. Mais ce serait intéressant de demander à Fincher ce qu'il pense d'un film comme Tuarnet, par exemple. Mais c'est des films qui vont ensemble.
Rien d'autre qu'une comédie noire, Tuarnet.
Mais comme Tuarnet est drôle aussi.
Le parallèle en plus se fait et se prête vraiment pour Tuarnet. Là où on voit que la finesse, justement, on parlait de la finesse du réalisateur. Pourquoi je trouve que Fincher est un mec bien plus fin que Oliver Stone, c'est qu'Oliver Stone, pour te le montrer, il est obligé de t'en mettre plein la gueule, tu vois, avec quitte à aller dans la gaudriole et la caricature et dans l'humour noir beaucoup plus encore que Fight Club, quoi qu'on en dise. Et alors que Fincher, son histoire, il arrive à l'ancrer quand même vachement plus près du réel, tu vois, dans le réel vraiment, et il a pas besoin de la caricature, tu vois ce que je veux dire?
Bah, les matériaux de base en plus sont complètement différents.
Oui, oui,
Tarantino et Palahniuk sont vraiment pas les mêmes personnes.
Bien entendu. Non, mais après, tu vois, c'est le réalisateur qui en fait ce qu'il veut quelque part, tu vois.
Non, mais il y a un côté, oui, plus malin.
Là où on voit que. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de True Romance et je disais. Là où Tony Scott, il arrive à s'imprégner réellement du matériau de base pour être limite transparent en termes de pâte. de pâte en termes de, d'esprit, tu vois. Et il va juste appliquer la sienne au niveau montage, réalisation. Oliver Stone, lui, il prend...
parce qu'il est scénariste en plus à la base.
Mais il prend l'univers de Tarantino et il le modifie quand même pas mal. Parce que tu reconnais des touches de Tarantino, mais tu vois bien qu'elles sont là, à la Rodriguez, boursouflées à des moments.
Est-ce que tu vois...
Ces personnages, si tu donnes la caméra, ce que je voulais dire, j'ai fini, j'en ai pour deux secondes. Mm-hmm. Parce que, si tu donnes la caméra à Tarantino pour faire True Romance, ça va ressembler à du True Romance. Et tu sais que tu donnes la caméra à Tarantino pour faire du
Tuerney,
ça ne ressemblera pas à du Tuerney. Parce qu'il va jamais dans la caricature non plus, Tarantino, dans la grosse caricature gaudriole à la con où le mec il va se mettre à hurler pour rien et tout. Mais non, dans Kill Bill, les personnages se prennent au sérieux. C'est ça qu'il faut, c'est un truc qu'il faut pas mélanger. Les personnages peuvent être marrants.
Mais c'est une vraie tragédie, Kill Bill.
Voilà,
tu vois.
Dans Pulp Fiction, tous les personnages sont espicés dessus, quoi. Tu vois, ils sont tous marrants, ils sont tous, tu vois, ils ont tous des
cool, infos, cool.
Et marrants quand même, tu vois, tu mm-hmm. rigoles. Mais les personnages eux-mêmes dans le film se prennent tous au sérieux. Il n'y en a pas un qui se fout de sa gueule. Dans Tuerney, les personnages, tu vois, tu sens qu'ils...
Ah bah il a tellement franchi la limite, je veux dire, en termes de morale dans Tuerney, que tu peux pas t'agripper à le bon, le mauvais, le cool, le pas cool, machin. Non, c'est impossible. T'as beaucoup trop d'éléments, t'as trop d'informations, et puis t'as pas envie. Stone, il te propose un univers avec tout ce que ça comprend. Tu fais le voyage, tu dis oui, tu dis non, quoi. Mais c'est un...
Non, mais ce que je veux dire...
Est-ce que c'est pas un film coup de poing qui met KO quand même? Un peu?
Mais Woody Harrelson et Juliette Lewis, ils se prennent même pas au sérieux.
Bah à la fin, dans la caravane, à la fin, quand ils partent avec leur marmaille. Parce que le film se termine sur la super chanson de Leonard Cohen. Et ils ont une famille. À la fin, ils s'en sortent, ils ont une famille. C'est le rêve américain, si on s'en est sorti. Tu sais pas si ça va devenir des gens gentils. C'est là toute l'audace de Stone. C'est qu'il te dit, voilà, on a créé des monstres. Maintenant, ils sont lâchés dans la nature avec des gosses. Qu'est-ce qui va se passer?
C'est ça. C'est le futur, c'est maintenant.
Bah voilà, c'est le futur. C'est parfait, franchement, non?
Bah c'est l'Amérique.
Ouais, putain, faut qu'on finisse là-dessus. Hein.
J'adore la scène où, quand même, au tout début, quand il livre de la viande, je crois, il est bouché, il bosse pour un boucher et il arrive avec
des rognons, ça dégueule.
Barbac, il piche le sang, enfin, c'est n'importe quoi.
Bah, le sitcom, c'est là où c'est la mise en scène sitcom, ouais. Mais Tarantino, trop. Enfin, je sais pas, Johan, Christophe, il est trop déconnecté que ce genre de truc. Vous croyez pas?
C'est-à-dire?
Bah, du chausse-pied, du coup de boule à la Stone, quoi. Stone, c'est quand même le sale gosse d'Hollywood. Tu vois, il a toujours soulevé les trucs qui dérangeaient, quoi.
Non, mais de toute façon, Tarantino est beaucoup plus fin que le film qu'on voit à l'écran. On le sait avec ses autres films. Je pense pas que Oliver Stone soit un fan de la nouvelle vague ou au niveau du cadrage, tout ça, comme tu dis. Très peu de décadrage, de contre-plongée surabusée, mis à part quand on ouvre les coffres chez Tarantino. Mais voilà, il est très loin. Je pense que là, on a un vrai film d'Oliver Stone. Oui, il a complètement vampirisé le scénario.
Exactement. De toute façon, ils ont une vision différente, tous les deux, du cinéma et de la façon dont on réalise. Et quand tu vois Tarantino dans tous ses films, c'est des hommages à ce qui s'est fait avant. Donc, au final, même s'il essaye de faire du neuf avec du vieux, Tarantino, c'est-à-dire d'innover, mais avec des bases solides, et tandis que, effectivement, Stone, c'est il innove carrément, quoi. Il fait des trucs qui pètent, quoi. Donc,
Stone, son fils un peu plus tard, c'est Mel Gibson.
Un peu, oui, mais pas pour Tuerney, pour le coup.
Non, pas pour Tuerney. Mais dans le côté, comme tu dis, on arrive quand même avec des gros sabots, mais quand même avec un putain de cœur. Tu peux pas lui enlever le fait de faire les choses avec le cœur et avec sincérité.
Bah Stone, de toute façon, ça, ce qui est génial avec Tuerney, c'est que ça va lui permettre d'enchaîner trois films assez intéressants. Tuerney, U-Turn et Any Given Sunday. Dans U-Turn, c'est plus mineur, c'est un film noir dans une petite ville, tout ça, bien axé sur les personnages.
C'est vachement bien d'ailleurs.
Qui est très bien. Mais dans Any Given Sunday, là, ça touche épileptique, parce qu'on peut pas appeler ça autrement. Il y a combien de plans dans le film, je sais pas. Il y a 200 morceaux, machin, comme dans Tuerney d'ailleurs. C'est maîtrisé bien plus que dans Tuerney. Le sujet est polémique, le sport professionnel, les médias, le sacrifice, tout ça.
Non mais Oliver Stone, Tuerney, c'est le seul film qui a cet aspect visuel-là dans sa filmographie.
Ah bah parce que...
C'est pas un mec qui va te... C'est ce qu'on dit tout à l'heure, il faut pas non plus tu vois, raconter n'importe quoi sur le bonhomme. Le mec, il a fait tous ses films, il a sa touche à lui. Tu prends JFK, tu prends Platoon, tu prends...
Très classique.
L'Enfer du Dimanche, comme tu le dis. Voilà, ça n'a rien à voir. Non. Visuellement, ça n'a rien à voir. Il adapte quand même sa manière de.
Tuerné et Any Given Sunday, il y a quand même vachement de similitudes. Il y a beaucoup de gros plans. Il y a beaucoup de. Parfois, tu as des plans de coupe complètement oniriques, tu vois, qui n'ont rien à foutre ici.
Mais il y a un énorme travail au niveau du son aussi.
Ah, puis, ouais, et puis le montage, je veux dire, ils sont combien? Ils sont 4, je crois, crédités au montage de Any Given Sunday. 4 ou 5. C'est bah,
pas, oui, toutes les scènes, les scènes de sport.
Ouais, bah oui, oui.
Elles sont hallucinantes.
Puis toutes les scènes en plus du film sont pratiquement toutes filmées. C'est que des scènes de confrontation. Il y a très peu de scènes. Dans chaque scène de l'Enfer du Dimanche, tout le monde veut quelque chose du mec qu'il a en face de lui, tu vois.
Bah, c'est donc, la guerre.
Voilà, tout le long du film, c'est comme ça. Cameron Diaz, James Wood, machin, tout. Donc, c'est pour moi, vraiment, c'est son chef-d'œuvre. Vraiment, Pacino. De A à Z. Ouais, Pacino, si t'en veux pas, je le regarde en rentrant.
Ouais, comme pour moi, dirais. C'est un réalisateur hyper important.
Et c'est Stone, peut-être là le truc, c'est peut-être deux cinéastes qui devaient peut-être pas se croiser. Voilà, c'est peut-être
Stone,
ça l'affaire.
Tu t'insurgeais un peu tout à l'heure, mais Stone, on peut encore plus le rapprocher de Kubrick, dans le sens où c'est un réalisateur à la Kubrick qui va s'intéresser à des sujets complètement différents, tout en ayant quand même une vision globale qui n'est pas la même que Kubrick. Lui, c'est plus les États-Unis, l'histoire américaine, la pop culture. Sa pop culture à lui.
Ouais. Bah, il est américain.
Sa pop culture à lui, c'est le Vietnam. Sa pop culture
à différence
à lui,
de Kubrick
c'est
déjà.
JFK.
Maintenant, il est américain,
lui,
Kubrick.
Football américain.
Hein, il est américain, Kubrick.
Absolument.
Les médias, le début.
Pourquoi
de
je
la
dis ça, moi? Parce qu'il a 3 habitants en Angleterre.
Donc, c'est sa pop culture à lui qui fouille film après film. Et à la Kubrick, il va s'atteler à des genres très, très éclectiques et quand même réussir, je trouve, d'une belle manière. Sans atteindre forcément à chaque fois le chef-d'œuvre, mais il en compte quelques-uns dans sa filmographie, je trouve.
Ah oui, ah bah c'est indéniablement, bien sûr.
Et le mec, il est quand même costaud. Pour moi, L'Enfer du Dimanche, c'est un chef-d'œuvre. Tu en es dans son genre, c'est un chef-d'œuvre.
Ah bah oui.
Platoon, c'est un chef-d'œuvre.
Wall Street.
JFK, c'est un chef-d'œuvre.
Wall Street,
un peu moins pour moi, mais c'est un très très bon film dans
c'est
le délire.
C'est un film qui est putain en avance en tous les cas sur tout ce qui se passe aujourd'hui.
Et je te dis pas le contraire. Hein, je ne te dis pas.
Non, c'est vrai
ça
qu'il a.
Très longtemps que je l'ai pas regardé.
Il a quelques films mineurs, mais même dans ses films mineurs, voire un peu chiants comme Alexandre, il y a des trucs géniaux. Il y a des trucs excellents.
Oui, oui, oui.
Parce qu'Alexandre, il a quand même un côté.
Alexandre, la version longue, moi je l'aime bien. Quoi. C'est un film qui se barre en couille, ce film.
Un peu, ouais.
Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dans Alexandre.
Ah, je suis assez d'accord avec ce que tu disais pour Gibson. Hein. Dans le côté. Bah, Gibson n'a pas ce côté polémique social, il a le polémique mystique, tu vois. C'est assez différent. Mais pour le côté j'y vais à fond, je me pose pas de questions, le sujet me passionne, j'y vais, boum, allez.
Je trouve que Gibson, on en reparlera quand on fera la spéciale Gibson rapidement, j'espère. Je trouve qu'il y a des choses à dire. Mais je trouve que Gibson, il a quelque chose qui me touchera toujours un peu plus que
un peu moins cérébral.
Que Stone, c'est qu'il est charnel. Et il est charnel à fond. Et tu sens que ses films, il les vit
intensément.
Charnellement, tu vois. Ouais, ça passe par le corps. Et ses plans, ils passent par le corps. Ses moments forts dans le film, ça passe par le corps.
Ah bah, je crois qu'aussi, le cinéma de Stone vient aussi beaucoup de la littérature et de la tragédie.
Ils n'ont pas le même âge non plus.
Et pas, pas chez Gibson. Tu vois, chez Gibson, ça vient plus de la culture visuelle immédiate et il n'a pas fait autant de films, il ne s'est pas intéressé à autant de sujets différents. Enfin bref, là, on part complètement sur autre chose, mais voilà. Et Tuerné, ce sera un bide. Voilà.
Et déjà, ce qu'on peut remarquer là, ce qui est quand même assez hallucinant, bon, bah, c'est parce qu'il a travaillé avec des réalisateurs, mais de parler de Tarantino, qui est une sorte de mixeur de références, on le sait tous, on en vient à parler du cinéma américain futur et passé parce que ce mec-là il brasse tellement de choses que les gens ont envie de se brasser avec lui aussi.
Bah, il devient un label, à ce moment-là ça devient un label.
C'est hallucinant. Quoi.
Tu mets Tarantino sur l'affiche parce que tu sais que ça va plaire aux gens. Et puis chez nous, on a eu Tuerné, je crois qu'on l'a eu juste après la Palme d'Or en 94, tu vois. Donc déjà à l'époque, son nom sur l'affiche était écrit en gros, écrit par Tarantino, tout ça. Moi je me rappelle avoir acheté le bouquin de Tuerné, le roman. Donc c'est une novélisation du script, mais dans la novélisation, tu avais déjà toutes les scènes coupées du scénario, tu vois, ouais. que t'as pas dans le film à l'époque, quoi. Et donc à l'époque, voilà, moi, 94, je découvre Pulp Fiction, Tuerné en salle. J'ai pas encore les clés pour me dire il déteste le film. Je crois pas lire d'interview à l'époque où je le vois, tu vois. Et pour moi, c'est cohérent, tu vois. Adolescent, pour moi, c'est cohérent de me dire que c'est le même mec qui est à la tête des deux projets. Et
bien sûr, parce qu'à l'époque, le mec, il avait réalisé que Reservoir Dogs, Pulp Fiction sortira juste après. Et c'est vrai que tu peux voir une certaine cohérence.
Non, je crois que Pulp Fiction sort juste avant Tuerné en France.
Juste avant ?
Ouais. Il sort en septembre.
Ça va s'affiner par la suite,
octobre.
En fait, son style à Tarantino. Et là, c'est vrai que c'était difficile pour nous en plus de se dire attends, mais c'est compliqué. Il y a Reservoir Dogs, il y a True Romance, il y a Tuer en Nez, Pulp Fiction.
Bah oui, oui, bien sûr.
Quatre films qui sont quatre films vus et pensés différemment, adaptés différemment.
Les seules choses peut-être qui relient vraiment Tuer en Nez à l'univers de Tarantino, c'est la violence. Très présente, et c'est un des moteurs narratifs du film, c'est la violence, c'est l'interview à la fin, c'est quand Donnie Jr. demande à Woody Harrelson, alors pourquoi tu fais ça, pourquoi t'es un monstre et tout, il lui dit, j'en sais rien, je suis un tueur-né, quoi. Voilà, truc gratos. Voilà. Donc c'est peut-être le seul truc voilà, qu'on peut nous à l'époque relier, se dire, ah voilà, machin, c'est vrai que c'est vraiment lui, quoi, quand même. Mais Pulp, du coup, c'est 2h30 de film qui prennent leur temps, qui sont vraiment très bien dialogués, c'est très carré, c'est très propre.
Il y a plein de personnages, mais du coup, c'est plus un film à sketch. Même
voilà,
si
ça n'a rien à voir, quoi. C'est,
on va se le garder pour, ouais, ouais. pour la semaine prochaine.
Ouais, par contre, moi, c'est aussi, juste pour finir, 94, ce sera donc Eastwood qui donnera la Palme d'Or à Tarantino, à Cannes. Et ce sera, je me souviendrai toute ma vie, donc c'était sur France 3 ou Canal, je ne sais plus. Le discours, mais je crois que j'en ai déjà parlé, d'Henri Chapier après la Palme d'Or, parce qu'il était donc les deux finalistes, entre guillemets, même si ça se passe pas comme ça à Cannes, c'était Tarantino, c'était le buzz, c'était Tarantino, et Théo Angelopoulos. Alors je sais plus si c'était Le Regard d'Ulysse ou L'Éternité un jour, un des deux. Il y en a un qui a eu la Palme 2 ans après ou pas, et Chapier, conférence de presse, Chapier qui dit qu'il est outré que ce soit un film comme Pulp Fiction qui a la Palme d'Or, tout ça, et il faut se rappeler que quand il va chercher sa Palme d'Or, Tarantino il fait un doigt à la foule. Il fait un doigt voilà, à la foule, comme Piala.
À la Piala, et sachez que si
avant.
Vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus.
Et donc il rentre déjà, là il imprime sa patte définitivement, et Tarantino et Cannes, voilà, c'est parti, ce sera une histoire qui roule pour très longtemps. Mais je me souviens d'Henri Chapier, ce connard, et déjà devant ma télé, j'étais enfant et énervé.
Et ben voilà, la fan club, ça va être fini pour cette semaine.
Fini par quel morceau?
On va finir par un morceau de Tuer en Nez.
Le Cohen.
Et une BO produite par Trent Reznor, on a oublié de le dire quand même.
Vraiment, 45 Cohen.
Voilà, une BO fourre-tout, il y a de tout dedans.
Il y a les Rage.
Il y a Dog Pound, Leonard Cohen, il y a L7, je crois qu'il y a Patti Smith.
L7, bip bip.
Voilà, il y a.
Une BO à la Tarantino.
Il y a du. Oui, pour le côté mix de tout et de rien, et non, parce qu'il n'y a aucun morceau qu'il y a dans ce film qui aurait peut-être été choisi par Tarantino. Il y a du Nusrat Fateh Ali Khan, le chanteur pakistanais qui fait des vocalistes,
t'as raison,
tout ça.
Bien entendu, mais.
Si, il y a peut-être un ou deux morceaux de country.
Comme
ouais,
tu l'as dit dans le Tony Scott, c'était une bande originale, un score. Alors que là,
il y a aussi des chansons dans
oui, mais là, quand même les musiques marquantes, c'est quand même à la Tarantino.
Oui.
On prend des musiques et on les balance quoi.
Ah non, mais c'est une super BO. C'est dommage parce que le CD, il y a quoi, 28 morceaux, 27 morceaux. Et je crois que dans le film, tu dois en avoir plus de 80
oui,
morceaux.
Mais bon, c'est comme Eddie Given Sunday, c'est pas possible.
Non.
Tu sors un coffret.
Mais elle est super bien foutue. Elle est mixée d'ailleurs, je crois. Il y a des plages. Mais la BO est mixée, c'est-à-dire que tous les morceaux s'enchaînent.
Aussi.
Voilà, t'as des dialogues.
Bon, enfin, je l'ai là sur l'ordi.
Un monstre. Ce film, c'est vrai qu'il est monstrueux, quoi. Il aura quand même marqué les années 90 à fond les taquets.
À ce film, tu peux penser à la fin d'Akira, espèce de truc protéiforme qui part dans tous les sens, qui absorbe tout autour de lui.
C'est vrai que c'est tout sauf du Tarantino, quoi. C'est maintenant, avec le recul, tu te dis c'est vraiment barge, quoi. Que c'est moi, je pense vraiment que c'est. J'adore le résultat, mais je pense que c'était deux mecs qui n'étaient pas faits pour collaborer du tout, quoi.
Bah, la preuve.
Voilà.
C'est que ça s'est mal passé. Bah, la fan club, c'est fini. Et voilà pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec la suite. On sait pas combien de films on fera. On fera ce qu'on peut, ce qu'on veut. Et
on se retrouve très fiction,
si vous voulez. On n'oblige personne à nous écouter, mais on est là. Et c'est ça qui est le plus important.
Mais on vous aime profondément.
On vous aime.
Et moi, je vous annonce que quand on parlera de Pulp Fiction, on sera obligé de se faire un petit contest de répliques de films, parce que dans ce film, il y en a moult et on les connaît toutes par cœur. Enfin,
tu nous prépareras un petit quiz.
Ouais, je vous dirai.
Quel personnage dit cette
phrase ? Ouais, voilà. Okay. Parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment du lourd dans ce film, quoi.
Ça marche. Et bah, à la semaine prochaine, les gars. On se laisse là avec un morceau de Leonard Cohen de la BO de Tuer en Nez.
Natural Born Killer.
KBILLY. Give me back my broken neck, my mirror broke, my secret life is lonely here, there's no one left to our culture. Give me back the Berlin Wall. Give me Stalin and St. Paul. I've seen the future, brother. It is murder. Things all slide.
Slide in all directions.
Won't be nothing.
Won't be nothing
you can't measure.
It's a fucking joke, right?